Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Il est précisément 8h30 sur Bretagne 5.
Bretagne 5, l'invité du 7-9.
Et notre invité ce matin dans la matinale et en direct est Christophe Rondel. Il est secrétaire général de la CFDT des Côtes d'Armor et il est venu jusqu'au micro dans le studio de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour.
Alors Christophe Rondel, beaucoup d'actualités pour la CFDT en ce moment. On vous voit beaucoup sur le terrain, on va parler de cette opération. Mais il y a aussi le fait que la CFDT est le premier syndicat dans les Côtes d'Armor. C'est nouveau pour vous ? Vous aviez déjà...
On était déjà les premiers, mais il y a eu une nouvelle mesure d'audience qui est parue au mois de mai et qui a confirmé notre première place et de loin dans les entreprises du privé, puisque nous avons 39% de représentativité. Donc là, c'est les salariés qui choisissent leurs représentants délégués du personnel élus au CSE et ils ont choisi à 39% dans les entreprises, grandes et petites, la CFDT. Donc vraiment on est très satisfait, c'est une période qui était de 2017 à 2021 où on a connu divers mouvements sociaux, la question de la réforme des retraites, la CFDT avait son langage, ses propositions et on a vu que sur cette période, malgré tout, eh bien, les salariés nous ont fait confiance dans les entreprises, donc on est très content avec une large marge d'avance sur nos suivants. Donc voilà, très content.
Alors justement, la CFDT s'implante, est sur le terrain. On va justement parler d'une opération que vous avez lancée à la CFDT sur le terrain. Pourtant aujourd'hui, on voit que le monde syndical, on en a parlé d'ailleurs avec d'autres responsables syndicaux ici au micro de Bretagne 5, on voit que le monde syndical peine aujourd'hui à recruter. En fait, les gens se détournent des syndicats. Qu'est-ce qui fait qu'ils se tournent vers vous, vers la CFDT ?
Alors nous, on essaye de répondre à leurs attentes, à leurs besoins. C'est vrai que notre implantation, notre force fait qu'on est assez proche quand même des attentes des salariés et des agents de la fonction publique. Et donc, on est assez près de leurs revendications. Et donc, quand on dit qu'ils peinent à nous rejoindre sur l'année, par exemple, effectivement, on a un léger déficit. On a 50 adhérents de moins que l'année précédente. Mais ce n'est pas énorme, étant donné, on peut regarder les conjonctures économiques, le télétravail qui amène de l'éloignement entre les représentants syndicaux et les salariés pour proposer l'adhésion. Et donc, finalement, on n'est pas si mal que ça. Après, il y a, c'est vrai, la perte du sens collectif. Mmh. On voit dans de nombreux mouvements... C'est un cumul d'intérêts individuels qui s'additionnent, qui sont peut-être opposés, mais qui sont au même moment ensemble. Et ça, c'est pas le syndicalisme. Le syndicalisme, c'est construire ensemble des revendications pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et c'est vrai qu'il y a plus d'individualisme aujourd'hui. C'est une attention que l'on a, notamment... d'une manière plus générale, même pour la démocratie, il va y avoir des élections l'année prochaine. Nous, on appelle toujours au vote. On n'est ni neutre, ni partisan, on ne soutient personne, ni neutre. On est quand même contre les partis d'extrême droite. Et donc, on craint que l'individualisme n'amène pas les gens à choisir l'intérêt collectif, à eux, parmi tous les candidats, de choisir l'intérêt collectif. Voilà. Et donc, ça, on est inquiet et on participera l'année prochaine à une campagne pour mobiliser au vote, pour mobiliser toutes les générations à voter. Voilà.
Voilà, c'est aussi le rôle du syndicat de participer à la vie démocratique.
La vie démocratique, tout à fait. D'ailleurs, la CFDT, on est Confédération démocratique du travail, et dans l'une de nos valeurs, il y a la démocratie. Et sans faire de politique, mais la démocratie, c'est aussi notre mode de fonctionnement. On a des adhérents qui élisent des représentants du personnel, qui élisent des représentants dans une organisation syndicale départementale, puis régionale, puis confédérale ou nationale. Et donc, on est dans un mode de fonctionnement où on délègue une partie de pouvoir. Et je crois qu'aujourd'hui, justement, chacun veut conserver son pouvoir de décision, son pouvoir d'agir et n'accepte plus de déléguer, ce qui crée la crise aux élections, le faible taux de participation. Et ça, c'est inquiétant parce que ne plus avoir confiance dans les personnes que l'on élit, que ce soit dans son entreprise, dans une association, c'est inquiétant. C'est inquiétant puisque on ne pourra... On ne peut pas vivre éternellement au référendum. Mmh. Et quand bien même on vivrait au référendum, encore faut-il que les gens votent pour les référendums et donnent leur avis. Et donc, ne pas voter, c'est ne pas donner confiance.
Voilà, la démocratie, toujours et encore. Alors justement, la démocratie, elle se fait aussi sur le terrain, à la rencontre justement des gens du terrain, des travailleurs qui ont des questions, parfois qui se sentent un peu isolés. Hein. Vous parliez tout à l'heure de cet isolement, Christophe Rondel. Et vous avez lancé une opération, alors quand je dis vous, hein, je parle de la CFDT, qui marche particulièrement bien ici dans les Côtes d'Armor, entre autres. Réponse à emporter, opération qui va se terminer le 30 septembre, demain donc. Oui. Est-ce qu'on peut en dire deux mots de cette opération ?
Oui, alors en fait, c'est la deuxième année. Nous, on a choisi à la CFDT de... Donc généralement, à la rentrée, il y a une petite rentrée sociale, syndicale, qui est marquée par des mouvements de grève. On s'aperçoit que ce n'est pas l'attente des salariés, ni des agents de la fonction publique. Et donc, on s'est dit, ils ont besoin de services, ils ont besoin d'informations. Et donc, déjà l'année dernière, on était répartis sur tout le territoire. Et encore cette année, on va à la rencontre des travailleurs là où ils sont. Hier, on était à Lannion, sur un restaurant inter-entreprise, Émeraude Idée, qui est une entreprise de travail adapté. Et donc, les salariés viennent y déjeuner. Et donc, sur leur temps de pause déjeuner, on avait installé à Barnum pour éventuellement recevoir leurs questions et y répondre immédiatement. On avait aussi... hier soir, on était dans un foyer jeunes travailleurs, où là, effectivement, ce sont des travailleurs très éloignés du syndicalisme, par leur culture, par leur connaissance du droit du travail et du travail. Et donc, on a pu répondre à nombreuses questions sur les heures supplémentaires, sur les fins de contrat, la démission, l'arrêt maladie. Des questions toutes simples, mais... alors. Qu'ils pourraient peut-être chercher sur Internet. Mais là, c'est ce face-à-face et cette réponse directe qu'ils apprécient parce que ça personnalise la réponse et ça crée un contact. Et ils se rendent compte qu'une organisation syndicale, en tout cas la CFDT, peuvent leur rendre des services, les former et leur permettre de se sentir à l'aise dans leur relation au travail. On a eu un jeune homme qui s'interrogeait sur la pause des congés. On lui a expliqué les règles et donc il a pu retourner voir son employeur sans être revendicatif ni vindicatif, mais en ayant des connaissances et entamer un dialogue avec son employeur sur sa pause de congé, l'organisation de son temps, puisque c'est quelqu'un qui venait en saison pour partie en Côte d'Armor, mais qui a de la famille en région parisienne et voilà, qui souhaitait organiser ses congés pour pouvoir retourner en région parisienne. Voilà.
Alors, on s'aperçoit de l'importance de ce qu'on appelle un petit peu d'une façon fourre-tout les corps intermédiaires. Les syndicats font partie de ces corps intermédiaires. Est-ce que, justement, ce retour de terrain est important aussi pour la CFDT ? Parce qu'aujourd'hui, on ne travaille pas, on ne vit plus comme avant. Les règles changent très vite, d'ailleurs, dans un monde qui va vite. Est-ce que vous vous adaptez aussi, la CFDT, à ce monde du travail qui change ?
Alors, on s'adapte forcément, notamment dans nos revendications, puisque nos revendications partent des conditions de travail, des salariés et des agents des fonctions publiques. Et donc aujourd'hui, on a des revendications liées au télétravail. Alors, on en avait bien avant la période de Covid ou de la Covid, mais aujourd'hui, on construit ces accords. Et ça, effectivement, on va... Autant le télétravail pouvait être perçu comme, pour certains, quelque chose d'impossible, aujourd'hui... Beaucoup l'ont testé pour ceux qui ont pu le faire. Hein. Il y a ceux qui étaient les secondes lignes, les premières lignes qui étaient au boulot dans les entreprises. Mais ceux qui ont pu télétravailler aujourd'hui ont un autre regard. Et donc les revendications dans un accord télétravail sont différentes parce que le volume de télétravail imaginable avant n'est pas celui d'aujourd'hui. Les conditions matérielles du télétravail avant ne sont plus celles d'aujourd'hui parce qu'on a goûté, on a vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Donc oui, on s'adapte forcément en fonction des revendications des uns des autres. Et puis... on s'aperçoit aussi que la question des travailleurs de seconde ligne, la rémunération de ces travailleurs est quelque chose aujourd'hui d'important. Mais aussi, il n'y a pas que la rémunération, il y a aussi les conditions de travail. Mmh. Il faut réfléchir au rythme de travail dans la restauration. Est-ce que la question des coupures entre le service du midi et du soir, c'est toujours pertinent de la même manière ? Est-ce que la question de l'organisation des temps de travail en semaine et en week-end, c'est toujours de la même manière ? Est-ce que pour rendre attractifs les métiers, il ne faut pas réimaginer les conditions de travail. Mmh. Quelque chose qui n'a pas été fait, sans doute, globalement. Voilà.
Alors aujourd'hui, il y a une grande interrogation qui est sur toutes les lèvres. C'est cette fameuse réforme de la retraite. Hein, vous y avez fait allusion tout à l'heure en commençant, Christophe Rondel. Est-ce que, là aussi, il va falloir peser Cette réforme de la retraite va falloir peser aussi sur le gouvernement, j'imagine. D'aucuns disent non, il faut rester à un âge de la retraite raisonnable. D'autres disent non, on peut travailler plus longtemps, les conditions sont plus les mêmes, on vit plus longtemps aujourd'hui. Quelle est la position de la CFDT ?
Alors nous, la CFDT, en 2019, avant la Covid, hein, on était favorable à une réforme des retraites. Pas forcément celle du gouvernement, mais une réforme des retraites. Globalement, pour corriger certaines injustices, et de nombreuses injustices, et amener plus de facilité de compréhension sur le système des retraites. Aujourd'hui, se repose a priori, je dis bien a priori, la question de la réforme des retraites, sachant qu'on est à 8 mois d'une présidentielle. On l'a dit au niveau national, on l'a dit au gouvernement, et on le dira aux députés s'il le faut et aux sénateurs, c'est plus le moment aujourd'hui d'engager une réforme, puisque le temps de la mettre en place, on arrivera au présidentiel, aux législatives, on aura changé de majorité, quelle qu'elle soit. En tout cas, les députés d'aujourd'hui ne seront pas à l'identique des députés de demain. Et donc, dès lors, c'est trop tard pour engager. Et donc, peser... Alors, effectivement, je sais qu'il y a un mouvement de grève le 5 octobre qui parle des réformes des retraites. On n'en fait pas partie parce qu'on trouve que ce n'est pas aujourd'hui opportun. Après, la réforme des retraites qui existait, en tout cas, nos revendications qui existaient en 2019, sont toujours pertinentes aujourd'hui sur une réforme qui aplanit, ou du moins qui, alors c'est pas une question d'aplanir, mais qui simplifie le système. C'est toujours utile qu'on soit, d'ailleurs on le voit dans nos contacts dans Réponse Emportée, il y a des travailleurs, ils sont aujourd'hui salariés, ils étaient hier auto-entrepreneurs, ils le seront à nouveau demain, et ça veut dire qu'il faut évoluer dans la question des régimes.
Alors justement, il se pose aussi la question des gens qui ont peu travaillé. On sait que le chômage a beaucoup augmenté ces dernières années, le chômage de longue durée d'ailleurs. On a des gens qui n'auront pas ou peu de retraite, donc forcément de la précarité, j'allais presque dire au bout de la route, au bout du chemin professionnel. Comment aider, comment modifier peut-être la loi pour aider ces travailleurs qui n'ont pas eu de travail, pardonnez-moi terme.
Alors, il y a ce qu'on peut faire pour l'avenir et il y a ce qu'on peut faire pour ce qui est passé. Déjà, il y a à travailler pour l'avenir, c'est éviter ces périodes de long chômage. Alors, il y a un projet du gouvernement qui est à court, la formation, l'attractivité. Alors, la formation, nous, on y tient pour que les personnes puissent choisir leur métier et retrouver un emploi. Sur les périodes passées, c'est toute la question, effectivement, de la solidarité nationale. Comment ceux qui cotisent parce qu'ils travaillent participent effectivement au système des retraites et au financement des retraites de tous ceux qui, par des accidents de la vie, n'ont pas pu travailler. Et ça, c'est dans la question de la réforme à points, c'est quelque chose d'essentiel. Dans la question du minimum des retraites, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, c'est de porter ces revendications. Maintenant, attention aussi, le système des retraites, c'est un équilibre entre les cotisations et les prestations.
Il peut y avoir une fragilité.
Forcément une fragilité. Et parce que d'autres qui travaillent mais qui cotisent peu, parce qu'ils ont choisi de peu cotiser, je ne parle pas des salariés, mais de certaines entreprises ou certains entrepreneurs qui n'ont pas les mêmes taux de cotisation, vont réclamer aujourd'hui aussi une amélioration de leur retraite, alors qu'ils n'ont pas cotisé pour. Donc tout ça est une question d'équilibre, puisque c'est un système assurantiel, et il faut que ce système assurantiel soit équilibré. Donc voilà, il y a effectivement les demandes d'emploi, on est très... vigilance sur demandeurs d'emploi, les arrêts maladie, les carrières hachées, les temps partiels qui font qu'on ne peut pas cotiser. Ça, effectivement, il faut en tenir compte, mais il faut tenir compte aussi de certaines revendications sous-jacentes d'autres personnes qui, n'ayant pas volontairement cotisé à hauteur de ce qu'ils auraient dû, réclament de la solidarité là où ils n'ont pas été solidaires dans le paiement. Donc tout ça est bien un jeu d'équilibre.
Voilà, il faut être solidaires les uns des autres et accepter quand on fait un choix qui n'est pas forcément la solidarité.
Effectivement, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les agriculteurs et bien d'autres métiers cotisent pas au même taux que les salariés. Et donc, effectivement, ils constatent qu'ils n'ont pas la même retraite in fine. Mais ils ont fait un choix professionnel. Et dans certains débats, certains agriculteurs ont regretté ce choix professionnel, par exemple, de cotiser à moindre taux. Mais moindre taux, moins de cotisations, moins de retraite. Et donc, il faut, dans la solidarité, il faut regarder là où on doit être solidaire avec ceux qui le méritent et là où... on doit assumer ses choix de carrière.
Voilà, donc là aussi, il y aura à être très prudent, à être très vigilant finalement.
La réforme des retraites, comme beaucoup de sujets, c'est pas noir ou blanc. Et dans le gris, il y a des nuances. Donc on ne peut pas avoir des discours incantatoires en disant pour ou contre. Tout est dans le détail. Il y avait des travaux qui étaient lancés, qui ont perdu du temps. Puis il y a eu la Covid et tout est tombé à plat. Aujourd'hui, c'est trop tard. Il va falloir reprendre le sujet à plat avec une nouvelle majorité, quelle qu'elle soit, pour reposer tout cela. Mais il ne peut pas y avoir de discours simpliste pour ou contre. Voilà.
Voilà, ça prendra aussi forcément un peu de temps.
Et ça prendra du temps si ça se fait dans la concertation, sauf si le futur gouvernement veut imposer une réforme immédiatement après son élection.
Voilà,
donc ce sera un sujet de campagne en tout cas. Certainement, nous, on pèsera dedans.
Voilà. On va en parler d'ailleurs de la campagne et de la politique parce que c'est important aussi. Hein, les syndicats sont dans leur rôle. Alors, quand je dis politique, de la politique politicienne, dans la chose publique. Voilà. On voit aussi aujourd'hui au niveau des travailleurs, beaucoup de gens qui décident de changer de carrière. On voit aussi beaucoup de burn-out, de « je claque la porte du jour au lendemain, j'en peux plus de mon travail ». Là aussi, on a tendance à voir depuis la Covid ces décisions, on peut le dire comme ça, parfois assumées, parfois des choix parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Est-ce qu'un syndicat peut, là aussi, tel que la CFDT, peut là aussi avoir un rôle important auprès de ses salariés qui, allez, j'allais dire, qui craquent au bout d'un moment?
Alors oui, tout à fait, parce que ils craquent ou pendant la période de confinement, on réfléchit sur eux-mêmes, sur leur sens de la vie, le sens de leur travail, leurs conditions de travail. Et des fois, cet arrêt leur a permis de se reposer en disant « mais demain, ma deuxième partie de carrière, qu'est-ce que je fais ? Et donc, je me réoriente. » Nous, on peut déjà les informer. Pour tous ceux qui s'interrogent sur leur carrière, il y a le Conseil en évolution professionnelle. C'est un service gratuit réalisé sur tout le territoire. Hein, vous cherchez alors sur Internet CEP, Conseil en évolution professionnelle. Il y a un numéro de téléphone gratuit. On peut prendre contact et par ce contact, prendre des rendez-vous pour avoir un conseil complet sur la formation. C'est pas qu'un simple bilan de compétences où on dit ce que j'aime pas.
Ça va plus loin.
Bien. Ça va beaucoup plus loin. Ça va jusqu'à l'accompagnement, à la mise en place de formations financées ou finançables pour changer de métier. Mmh. Et donc, à toutes ces personnes-là, elles doivent, dans leur réflexion, intégrer ce conseil en évolution professionnelle. Et donc, si elles sont demandeuses d'emploi aujourd'hui, c'est Pôle emploi qui le réalise. Si elles sont cadres, c'est l'association pour l'emploi des cadres qui la réalise. Si elles sont non cadres, non demandeurs d'emploi, il y a ce qu'on appelle le CEP qui est réalisé par Catalyse. C'est un cabinet de conseil qui accompagne beaucoup de salariés dans leur reconversion, qui sont très performants, très compétents. Et ça, c'est important de se poser les bonnes questions avant même de changer d'emploi dans sa réflexion pour choisir et pas subir. Voilà. Alors après, nous, organisation syndicale, si c'est les conditions de travail qui posent problème, on doit agir dans les entreprises ou dans les services des établissements ou fonctions publiques pour que les conditions de travail qui existaient avant se modifie. On a bien vu l'administration, parce que le système central ne l'avait pas organisé, a eu du mal à mettre en place le télétravail. Certains agents de la fonction publique n'avaient pas d'ordinateur pour rentrer à la maison. Ou alors les services de connexion ne permettaient pas, par des systèmes de sécurité ultra sophistiqués, une connexion maison. Mmh. Et donc, dès lors que ces éléments contraignent, effectivement, les agents de la fonction publique sont aussi éligibles au télétravail et ça peut participer à leurs conditions de travail. Et donc, il faut que tout cela soit réfléchi, soit amélioré. Alors, ça a été le cas, mais oui, on peut agir dans les établissements, dans les administrations, dans les entreprises, par de l'information, mais aussi par des revendications.
Alors aujourd'hui, il y a un autre problème au niveau de l'emploi. Là encore, hein, le Covid est passé par là et on s'aperçoit que certains secteurs peinent à employer. Hein, c'est une grande réflexion d'ailleurs des formations professionnelles. Hein, on le voit aujourd'hui dans la restauration, dans certains métiers, eh bien, on ne trouve plus assez de monde dans le bâtiment. Hein, c'est le cas actuellement. On ne trouve plus assez de monde pour qui construire des maisons, qui servir au restaurant. Est-ce que là aussi, la CFDT est attentive, essaie de comprendre quel est le phénomène.
Tout à fait. Mais le phénomène existait déjà avant la Covid.
Oui, c'est vrai. Hein, voilà. Ça s'est amplifié.
C'est ça. La Covid n'a fait qu'accentuer des situations de milieux professionnels qui ne s'interrogeaient pas ou pas suffisamment sur l'attractivité de leur métier. Et donc la CFDT, oui, on porte... Alors, comme je vous ai dit, il faut jouer sur deux tableaux. Les revendications salariales et les conditions de travail. Il ne suffit pas de mettre un billet pour que les gens viennent travailler. Si le travail n'a pas de sens, s'ils ne sont pas considérés, s'ils ne se sentent pas utiles ou appréciant leur activité, ce n'est pas l'argent. Mmh. L'argent ne fait pas toujours le bonheur. Donc, ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, on l'a vu dans le cadre de la santé. Il y a eu le Ségur qui prévoit plein de dispositions, mais qui prévoit notamment certaines revalorisations salariales. Insuffisantes, puisque certaines personnes sont exclues, mais On voit bien que même dans la santé, malgré ces revalorisations salariales, des aides-soignants, des infirmières quittent le métier. Donc ce n'est pas qu'une question de revenus. Ça aide, mais ça pose aussi des conditions de travail. Les horaires, l'organisation, le sens, les effectifs.
Mmh. Et donc, souvent, les problèmes d'effectifs, on le voit par exemple dans le médico-social, on en parle un petit peu moins, mais je le revendique un petit peu au micro de Bretagne 5, hein, parce que voilà, c'est aussi un des pans de la santé qui est parfois un petit peu oublié. La psychiatrie, on en parle beaucoup en ce moment, où personne ne veut plus aller travailler. Je force peut-être un peu le trait, mais...
C'est le sens du travail, le sens dans le sens... Enfin, le sens... est-ce que ce que je fais correspond à ce que j'imaginais être le service, le travail fait, et est-ce que j'estime que je remplis ma mission ou pas? Si, effectivement, par les temps contraints et le nombre de personnes insuffisantes, je travaille à la chaîne dans un service où on devrait avoir le temps à accorder à chacun. Alors, il ne s'agit pas d'y passer... enfin, voilà, tout doit être mesuré, mais on voit bien que c'est ces conditions de travail qui font perdre du sens au travail et, à défaut de sens, amènent les gens à partir. Un métier qu'ils aimaient, mais qu'ils n'aiment plus.
Qui s'est déshumanisé souvent, on l'entend souvent.
Voilà. Alors, déshumanisé ou qui... voilà, qui perdent de sens. Et donc, dans le bâtiment, pour revenir à d'autres milieux, il y a la question des conditions de travail et de la rémunération, du matériel mis en place. On a pu voir, où j'avais encore hier un salarié qui m'évoquait des conditions de sécurité très limites. Et donc, il a préféré quitter l'entreprise parce qu'il s'interrogeait sur son propre vie. Dans la restauration, c'est la question des horaires. Et puis il y a toujours, effectivement, certaines brebis galeuses qui portent des mauvaises images. Cet été, on avait une jeune fille qui, saisonnière, on lui a répondu tes heures sup, c'était pour boire qu'ils vont te les payer. Ben non, c'est pas comme ça. Et donc, effectivement, des mauvais exemples qui font tache d'huile quand d'autres essayent de faire mieux. D'ailleurs, on voit, il y a ceux qui réussissent à employer et à trouver du personnel et ceux qui ont un peu plus de mal. Voilà.
Les réputations se font aussi.
Les réputations se transmettent, effectivement.
Le président de la République, il y a quelques jours, a proposé, justement, pour l'emploi dans les bars, les restaurants, que le pourboire soit payé par la carte bleue. Je vous vois sourire. Est-ce que c'est un gadget
Non, c'est... Disons que c'est bien plus que la question du pourboire dans la restauration et bien plus que la question de la fiscalisation ou non du pourboire, puisque quand il était payé en monnaie, il était fort peu déclaré. Donc, voilà. Voilà, bon, maintenant, est-ce que, parce que c'est payé par pourboire, les gens auront plus de pourboire? Je crois d'abord qu'avant de parler de pourboire, il faut parler salaire de base, évolution des grilles. Aujourd'hui, avec le SMIC qui augmente petit à petit, il y a un tassement des grilles. Il n'y a plus de différence entre le premier niveau, le deuxième niveau, le troisième niveau. Et là aussi, il y a de la perte de sens, c'est-à-dire... Pourquoi avoir plus de responsabilités si à quelque chose près, je gagne la même chose que celui qui est avec moins de responsabilités et moins de soucis? Quand je pars du travail et que j'ai encore plein de choses dans la tête et que je ne suis pas payé à hauteur, eh ben effectivement, soit changer de métier, soit revenir à un stade à moindre responsabilité. Comme ça, quand je pars du travail, je ferme mon placard, mais je ferme tout aussi. Donc, pour boire, c'est accessoire. Revoyons les grilles salariales, revoyons Mais bon, ça, a priori, là, les branches patronales ont envisagé une revalorisation. Mais c'est bien quand ça se fait dans le dialogue et pas quand ça se fait d'une manière unilatérale. Voilà, et ça se fait. C'est encore mieux quand c'est volontaire et pas contraint. Là, il faut qu'on pousse pour avoir un début de quelque chose. Et dans la propreté, ils ont revalorisé, mais moindre que le coût de la vie. Donc là aussi, on peut se faire de la pub en disant on revalorise les salaires. Si ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre, c'est inutile. Ils auront toujours moins de monde.
Alors on va terminer. Il nous reste trois petites minutes. On va parler de politique. Hein. Je disais trois minutes, me dit mon réalisateur. On va parler de politique puisque vous l'avez évoqué, Christophe. On va arriver très vite dans cette séquence électorale de la présidentielle, des législatives. Vous êtes attentif, évidemment, à la démocratie, hein, vous le disiez. Est-ce que ça vous inquiète, la montée des extrêmes? Alors, on pense à M. Zemmour, qui n'est pas candidat, peut-être pas, on ne sait pas encore, mais qui réunit quand même 13%, qui occupe les plateaux télé, il en avait l'habitude, vous me direz. Est-ce que c'est de nature à vous inquiéter quand certains salariés disent, finalement, le système, j'en ai marre, je vais voter à l'extrême? On changera, on verra, ça va péter. On entend ça aussi.
Oui, effectivement. Ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que ce n'est pas un vote d'adhésion, c'est un vote par défaut. Et le vote par défaut laisse la place justement à des personnes qui, par un discours, alors pour certains construit, mais pas forcément sur de bonnes bases, mais qui paraît construit, ou qui, parce qu'on n'a jamais essayé, on va l'essayer, peut mettre en place des dispositions, des règles qui sont préjudiciables au plus grand nombre. Et ça, une fois que ce sera voté, c'est pas... Eh bien, une fois que ce sera voté, ce sera applicable, et on s'en mordra les doigts d'avoir voté par défaut. Et donc, vaut mieux choisir, parmi la multitude de candidats, quelqu'un qui, malgré tout, même s'il ne répond pas à tous nos critères, il y a forcément... un candidat qui vaut mieux que l'extrême droite. Par leur discours, l'extrême droite n'apporte pas la solidarité, mêle les populations les unes contre les autres, et donc porte des langages de simplification. Je préfère même pas parler de l'extrême droite, ils ne portent pas nos valeurs démocratiques et ne portent pas non plus l'intérêt des salariés. Sous une façade d'opposition des travailleurs migrants avec les travailleurs locaux, ça ne simplifiera pas le chômage, c'est pas parce qu'on interdira aux travailleurs migrants de travailler qu'on aura plus d'emplois pour les Français dits de souche. Encore faut-il être de souche, et ça veut dire quoi être de souche avec un prénom français ou pas français? C'est quoi le prénom? Est-ce qu'un prénom breton est un prénom français? Voilà, donc on voit bien les limites d'un discours simpliste, voilà, mais alors... qui peut plaire.
Alors après, il faut savoir si on met la tilde sur le N de Fanch ou pas. Ça, c'est encore autre chose. Eh bien, on va s'arrêter là, Christophe Rondel, parce que le temps passe très vite. Donc, de la solidarité sur le terrain, de l'écoute,
du
sens collectif. Hein, c'est le message qu'on pourrait retenir. Merci en tout cas d'être venu en direct ce matin dans la matinale. Je rappelle, Christophe Rondel, que vous êtes secrétaire général de la CFDT des Côtes d'Armor et vous étiez donc en direct au micro de Bretagne 5 Matin. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous aussi. Au revoir.
Bretagne 5 Matin, le 7-9, Stéphane Hamon.